Small details or big surfaces, tight corners or odd shapes, flat, rounded, textured, or tall. Whatever your next project, there's a spray paint pattern that's just right. Because Rust-Oleum's new Custom Spray 5-in-1 gives you control with 5 different spray patterns. So you can tackle nooks, crannies, edges, and curves without worrying about drips, runs, uneven coverage, or anything else. Custom Spray 5-in-1. Only from Rust-Oleum.
Ça, ouvre-moi, ou le chasseur me tuera. Lapin, on triga. Me serrer la main, me serrer la main, me serrer la main.
Lui, c'est mon petit garçon. Il vous a probablement fait craquer avec sa petite chanson. Moi, je suis Shane Love, une maman solo qui a décidé de partir à la rencontre des femmes du monde pour parler sans filtre de la maternité. Alors bienvenue à vous dans Le Tourbillon, le podcast qui parle de la maternité, la vraie, loin des filtres Instagram. Lorsqu'elle était enfant, Athéna a été placée en famille d'accueil, puis adoptée après avoir été maltraitée par sa mère. Un événement qui lui a certainement donné l'envie de devenir maman à son tour assez jeune, et la maternité lui a donné une certaine revanche sur sa propre histoire. À 20 ans, elle tombe enceinte de son premier garçon, une surprise, alors qu'elle démarre ses études en BTS. Sa grossesse se passe bien et Athéna se sent tout de suite à l'aise dans son nouveau rôle de maman. 7 mois plus tard, elle fait un test de grossesse et découvre qu'elle est de nouveau enceinte, de triplé. Mal reçue par la femme médecin qui l'auscule car elle la juge trop jeune, Athéna surmonte ses peurs et se met dans sa bulle pour que sa grossesse multiple se passe sereinement. Elle accouche par césarienne et les triplés restent en soins intensifs car nés prématurément à 32 semaines. S'en suivent de nombreux allers-retours jusqu'à ce qu'ils se retrouvent enfin en famille à la maison. 3 ans plus tard, Athéna décide de divorcer car elle n'est plus heureuse dans son couple et se rapproche d'un de ses amis. Elle crée un cocon en solo avec ses 4 enfants et en parallèle, sa nouvelle histoire d'amour commence. Ils se marient et Athéna tombe enceinte. Et cette fois-ci, ce sont des jumelles. Alors, comment gère-t-on plusieurs grossesses multiples? Comment on s'organise? Athéna nous raconte tout sur sa maternité multipliée. Bonne écoute!
Bonjour Athéna.
Bonjour Shane.
Merci beaucoup de nous raconter ton histoire dans le tourbillon.
Ben merci pour ton invitation.
Alors, tu es la maman de 6 enfants, pour lesquels tu as eu seulement 3 grossesses.
C'est ça.
Tu vas nous raconter un petit peu tout ça. Alors toi déjà, est-ce que tu rêvais depuis toujours d'être maman?
Alors oui, d'être maman, oui. Moi, j'ai eu un désir de maternité qui arrivait assez tôt. Bon, je me suis mise en couple à 16 ans et puis on est restés ensemble. Et en fait, voilà, j'ai fait des études, j'ai fait un BTS dans le commerce qui m'a pas particulièrement intéressée. Et c'est pendant ce BTS que j'ai eu envie d'avoir un enfant, en fait. Moi, j'ai un rapport très particulier avec la maternité. J'ai une histoire un peu compliquée où, en fait, j'ai été retirée pour maltraitance et négligence de ma mère biologique. Donc voilà, j'ai été placée en pouponnière et puis en famille d'accueil par la suite. Voilà, donc je pense qu'il y avait quelque chose d'ancré au fond de moi et j'avais besoin de doter un peu tous ces démons. Et la seule manière de le faire, c'était d'avoir un enfant et de me prouver que moi, j'allais bien m'occuper de mon enfant, quoi. Donc j'ai décidé, voilà, de faire un enfant qui est arrivé en fait hyper vite.
T'avais quel âge?
Eh ben, j'avais 20 ans. Ouais. Et voilà, j'avais entendu dire que ça venait pas forcément tout de suite. Finalement, ça s'est fait très très vite. Donc j'ai dû un peu réorganiser ma vie parce que j'étais dans ma première année de BTS à ce moment-là. Et puis en fait, j'ai été arrêtée à 4 mois et demi de grossesse parce que j'avais pas mal de contractions. Et finalement, ça m'a bien arrangée parce que ça m'a permis de me connecter vraiment à ma grossesse. Et j'avais besoin de ça. Donc j'ai préparé l'arrivée de ce bébé. Voilà, j'ai lu beaucoup de livres, j'ai récolté des témoignages sur les naissances respectées. Enfin, j'avais déjà voilà un petit truc qui faisait que j'avais envie de faire différemment. J'avais envie de réfléchir et de penser cette maternité. Donc je me suis inscrite dans une maternité qui était dite très bienveillante, avec des accouchements plus naturels. Et puis je me suis mise en tête que j'allais l'allaiter, que voilà, j'avais plein de petites idées comme ça que j'avais envie de mettre en place en fait. Donc j'ai eu une grossesse qui s'est très bien déroulée et puis j'ai eu un accouchement pareil superbe. Voilà, en quelques heures, une poussée assez facile, enfin tout s'est très bien déroulé et Zéphyr est arrivé. Donc ce premier bébé, un petit brun aux yeux bleus, très mignon.
T'as fait un accouchement physiologique ?
Ouais, bah j'ai eu la péridurale quand même au bout d'un moment. Bon, je voyais bien que le sage-femme était un peu insistant sur la chose. En fait, j'ai compris après qu'il avait beaucoup de travail ce soir-là et que c'était plus facile pour lui, voilà, de mettre des péridurales à droite à gauche pour mieux maîtriser les accouchements qu'il avait. Donc j'ai cédé, je crois que j'étais dilatée à 6 cm, donc j'avais quand même bien avancé dans mon travail. Et puis finalement, c'était pas mal pour un premier accouchement, j'en garde quand même un très bon souvenir. Voilà, j'avais eu envie d'essayer sans péridurale, j'ai pas réussi, mais je me suis dit que voilà, c'était pas très grave, quoi. J'y arriverai une prochaine fois. Après, ça a été plus compliqué la suite. En fait, je voulais allaiter et puis ça a pas très bien fonctionné. Voilà, je me suis pas sentie accompagnée comme il fallait et j'avais l'impression que mon bébé tétait, mais en fait, il tétait pas du tout, quoi.
Oui.
Donc c'est au bout de 3 jours en fait qu'ils se sont rendus compte qu'il avait perdu beaucoup de poids, beaucoup trop de poids. Et comme il faisait déjà à peine 3 kilos à la naissance, il était descendu à 2,6 kg. Donc là, ils m'ont dit, bah non, ça va pas être possible. Faut tout de suite lui donner des biberons. Donc, ils m'ont un peu coupé mon allaitement de cette manière. Parce que le jour où ils m'ont dit qu'il fallait le passer au biberon, ils m'ont fait sortir, en fait. Voilà. Donc, Zéphyr avait 3 jours, je crois. Et je suis sortie comme ça, complètement déboussolée, avec un énorme baby blues. Et mon bébé qui était là, qui était tout petit, que j'avais l'impression d'avoir fait maigrir. Enfin, je savais pas trop comment m'en sortir avec ça, quoi. Donc, je suis allée voir le pédiatre qui m'a conseillé effectivement de le passer sous biberon tout de suite. Et finalement, personne m'a vraiment poussée et accompagnée pour que je réussisse à l'allaiter. Donc, ça s'est arrêté de cette manière. Et puis, c'était encore une époque où on donnait des couplets. Donc, en fait, il se posait pas la question. Il donnait des comprimés directs pour couper le lait et pour couper la montée de lait. Et puis voilà, donc ça s'est arrêté comme ça. Et puis bon, ça s'est très bien passé. C'était un bébé qui était hyper mignon. Qui dormait bien. Moi, j'avais l'impression que c'était ça, la maternité, quoi. La simplicité.
Ouais. Alors, est-ce que tu t'es sentie tout de suite à l'aise dans ton rôle de maman?
Oui, hyper à l'aise. Ouais, vraiment, j'ai su créer un lien tout de suite avec lui. Je l'avais beaucoup dans les bras, j'avais besoin de le garder contre moi. Puis c'était un bébé qui était pas très demandeur, en fait. Il pleurait peu, il dormait par tranche de 3-4 heures. Enfin, j'avais l'impression que voilà, que ça se passait bien, et je pense que vraiment ça se passait bien. Entre nous, en tout cas, ça s'est fait assez facilement. Je dirais pas que ça a été instinctif, mais voilà, le lien a été créé et ça s'est très bien déroulé par la suite, quoi. Et en fait, ça a été plus difficile quand j'ai dû reprendre mes études. En fait, je m'étais organisée pour avoir un congé maternité parce que je faisais un BTS en alternance. Donc voilà, j'ai eu le droit à un congé maternité. Et ça a été très, très dur quand il a fallu reprendre. J'ai eu l'impression que je l'abandonnais. Donc, j'étais dans une drôle de dynamique, j'avais pas tellement envie, et puis, ben, en fait, j'avais pas le choix, quoi. Il fallait quand même que j'aille au bout de ce que j'avais commencé. Ben, dans un premier temps, je l'ai laissé à mes parents, le temps d'organiser un peu les choses. Et puis, donc ça, c'était j'ai repris au mois de février. Ouais, j'avais réussi à avoir un peu de rab. Après mon congé mater, le médecin m'avait arrêté un petit peu, donc février. Et donc, au mois d'avril, je commence à me sentir hyper mal, je fais des malaises, j'allais pas bien, quoi. Donc, je me dis, bah, ça doit être un contre-coup, ma reprise, le stress de le laisser, tout était un peu cumulé. Et puis, en fait, je me rends compte que j'ai un retard de règles. Donc, je me dis, bon, bah, voilà, par acquis de conscience, je fais quand même un test de grossesse, on sait jamais. Et là, le test de grossesse, vire en l'espace de quelques secondes, quoi. Je me dis, ah non, mais c'est pas possible. En fait, j'avais choisi de ne pas reprendre de contraception parce que j'avais l'impression que mon corps avait besoin de récupérer de la naissance de Zéphyr. Et en fait, voilà, gros loupé.
Donc, comment tu prends cette nouvelle?
Et bah sur le moment, j'étais un peu choquée. Je me suis dit bah non non, là ça va pas être possible d'accueillir un deuxième enfant. Je vais jamais réussir à finir mes études. Je vais pas réussir à tout faire quoi. C'est pas possible. Donc je prends rendez-vous avec la sage-femme qui m'avait suivie pour Zéphyr, qui est extrêmement bienveillante, et je me dis bah je vais lui en parler. Donc je l'appelle et puis elle me voit en consultation quelques jours après. Elle me dit bah écoute, de toute façon voilà, c'est un choix personnel. Bah effectivement, il y a un enfant qui s'est, enfin un fœtus, un embryon qui s'est installé. Voilà, il y a aucune obligation. C'est toi qui sens les choses, quoi. Et effectivement, j'étais toujours dans cette démarche de me dire, bah non, mais je peux pas. Et en même temps, je me disais, ouais, mais finalement Zéphyr est arrivé. J'en ai eu un, je sais faire. Pourquoi est-ce qu'on, je pourrais pas accueillir ce deuxième enfant, quoi? Et puis je repars de son cabinet avec ce truc-là, une ordonnance pour décomprimer éventuellement pour avorter si j'ai envie, et je me dis bah non, je crois que je suis pas capable de faire ça, donc bah tant pis, là je vais essayer d'aller au bout de ma grossesse en faisant mes études avec Zéphyr en parallèle, et puis je vais essayer de faire un gros méli-mélo de ce truc-là quoi. Et puis finalement j'appelle une maternité pour prendre un rendez-vous pour une écho du coup. Parce que je sais pas trop où j'en suis, donc je me dis bon bah je vais faire une écho. Et puis juste avant d'aller à l'écho, je décide quand même de rappeler ma sage-femme, voilà, pour qu'on rediscute un petit peu toutes les deux. Et puis au fil de la discussion, elle me dit bah écoute, effectivement tu t'en vas à ton écho là, mais je vais quand même faire un petit monito. Donc c'était juste les petits monitos où on peut entendre le cœur de l'embryon quoi. Et elle me dit on écoute et puis après tu files quoi. Et là, en fait, partout où elle posait le monito, elle entendait un cœur, quoi. Ouais. Elle me dit « Ah, mais il est génial et tout, ce bébé, il vient, il suit mon appareil à écho, c'est incroyable et tout. » Bon. Et donc, je file à l'écho sur ce truc-là, avec toujours des énormes nausées. En fait, j'étais très malade, j'avais vomi pendant plusieurs semaines. Bon, pas bien. Et j'ai quand même émis l'hypothèse d'attendre des jumeaux. Je sais pas pourquoi. J'avais ce truc-là au fond de moi qui me disait, si ça se trouve, si t'es autant malade, c'est parce que, voilà, il y a un truc, il y a un truc, quoi. Bon. Et je m'en vais à mon écho. Et j'arrive à l'écho et c'était une gynéco qui démarrait juste, je crois. Elle était diplômée depuis peu de temps. Voilà. Elle paraissait hyper jeune. Et là, elle commence par me poser des questions. Elle me dit ah oui, mais vous avez un bébé qui a 7 mois. Bon, est-ce que c'était voulu? Donc je lui explique un peu l'histoire. Effectivement, c'était pas totalement voulu, mais bon, voilà, le bébé s'est installé, donc on a décidé de le garder. Bon, je vais y arriver, quoi. On va y arriver. Donc elle dit bon, ok, mais bon, c'est vrai que vous êtes jeune. C'est quand même c'est un peu bizarre. Bon, je relève pas, je me dis oui, effectivement, je suis jeune et je pense que c'est pas la dernière fois que je vais entendre ça. J'avais déjà eu quelques réflexions pour Zéphyr, donc je savais quoi. Et là, elle pose la sonde et on aperçoit 2 poches. Je me dis ah bah oui, je lui dis c'est des jumeaux, je le savais, je m'en doutais. Et là, en fait, elle a retiré la sonde très très vite. Elle m'a regardée et elle avait vraiment un visage qui faisait peur en fait. Et elle me dit. Non, il y en a pas 2, il y en a 3.
Ah. Toi, t'avais des jumeaux déjà dans ta famille ?
Non, pas du tout. Et en fait, elle a mis du temps avant de me reparler. Elle m'a juste dit ça, et moi, je me suis dit, ben 3, ok. Et en fait, je sais pas pourquoi. La première pensée que j'ai eue, c'était, ben oui, mais s'il y en a un qui a un problème, s'il y en a un qui va pas bien, c'est étonnant, hein, comme ouais. Pensée, mais c'était ça. Et elle a dit, bon, bah, on va voir, il faut qu'on fasse l'écho. Bon. Donc, elle commence à faire l'écho. Et en fait, dans le plus grand des silences, je pense que c'était un peu compliqué pour elle parce qu'elle n'avait pas l'air d'avoir l'habitude de découvrir des grossesses comme ça. Et puis voilà, ça reste très compliqué, en fait, des échos comme ça parce qu'il y a beaucoup de choses à déterminer lors de la première écho de multiples. Donc, elle fait toutes les mesures. Je vois que les 3 bébés ont l'air d'aller bien. Je me projette, en fait. Moi, je me projette vraiment là-dedans. Je me suis dit, bon, de toute façon, voilà, j'ai pas une histoire commune et j'ai l'impression qu'au niveau de la maternité, ce sera pareil. Voilà, j'aurai ce petit truc en plus, quoi. J'ai réussi à créer des triplés. J'ai pas demandé à ce que ça me tombe dessus et pourtant ils sont là. J'étais à 2 mois et demi de grossesse déjà, donc, c'était quand même déjà une grossesse avancée.
Ah oui.
Puis elle fait toute son écho et à la fin elle me dit bon ben ça va, les clartés nucales sont bonnes, les mesures sont bonnes, mais moi je suis pas habilitée à suivre des grossesses triples, donc je vais prendre contact avec le CHU et vous allez être suivie par la spécialiste du Grand Ouest. Voilà. Donc elle termine là-dessus et elle me dit mais rassurez-vous, hein, les réductions embryonnaires existent et honnêtement. Ça va se faire sans difficulté, quoi. Donc je me dis, mais qu'est-ce qu'elle me dit ? En fait, moi, je comprends, hein, réduction embryonnaire, on comprend le terme, et je me dis, bon, ok, elle me dit ça, mais je vais pouvoir discuter avec la spécialiste. De toute façon, elle va pas me suivre, donc je décide de rien lui dire de plus et de repartir comme ça, avec mes triplés dans le ventre et cette grosse nouvelle, quoi. Et puis, j'avais laissé Zéphyr en garde à mes parents. J'arrive chez eux et puis ma mère me dit « Bon, alors, c'est des jumeaux ?» Parce que je lui avais émis mes doutes, en fait, c'était des jumeaux. Et puis, je dis « Non, en fait, c'est des triplés. » Et là, elle m'a regardée. Elle avait Zéphyr sur les genoux, elle m'a regardée. Elle m'a dit « Non, c'est pas possible. » Mon père était là et je le revois, il s'est mis à marcher comme ça dans la pièce. Il tournait en rond, il dit « Mais des triplés, mais comment c'est possible ?» Comment on va faire ? J'ai dit non, mais vous avez rien à faire en fait. Je vais gérer, je vais y arriver, c'est sûr, je vais y arriver. Ils sont là, ils se sont installés, je vais y arriver.
Et comment ton chéri, il a pris la nouvelle ?
Alors lui, il était plus dans des questions de logistique. Il se dit oh là là, on passe de 1 à 4, ça va être plus compliqué au niveau matériel. Et en fait, moi, j'étais pas du tout là-dedans. J'étais plus dans comment je vais faire pour les allaiter, comment je vais faire pour leur donner le meilleur de moi-même, j'étais plus sur ce côté-là. Donc on n'était pas tout à fait en phase, mais voilà, au fur et à mesure, de toute façon la décision était prise, on les gardait tous les trois. Enfin, il y avait aucune question là-dessus. Moi, je me voyais pas enlever un bébé. Je trouvais ça contre nature et je m'étais même dit s'il faut en enlever un, je préfère enlever tout le monde. Je me voyais pas regarder un ou deux enfants grandir en imaginant qu'il y aurait dû en avoir trois, en fait. Et donc, je suis appelée par le CHU dans l'après-midi, donc ça a été extrêmement rapide. Ils m'ont programmé un rendez-vous 3 jours plus tard en me disant, vous avez un suivi avec tel médecin et puis vous présentez dans le service des grossesses à haut risque. Donc là, j'ai commencé à me dire, je bascule dans un monde un peu parallèle. Que je connais pas, on va découvrir ça. Donc on est arrivé à l'écho. Bon, il y avait évidemment beaucoup de retard et j'ai eu le temps de lire toutes les pancartes autour de moi. Grossesse à haut risque, grossesse particulière, suivi intensif, des choses. Je me suis dit bon, ouais, voilà. Et je discute avec une maman à côté de moi qui elle avait un fœtus avec des gros problèmes de santé. Je me dis finalement moi j'ai l'air d'avoir un peu de chance quoi. Effectivement il y en a trois mais j'ai l'impression qu'ils vont bien, donc c'est à moindre mal, quoi. Et donc là, elle me reçoit très froide. Elle ne me parle pas. Elle regarde mon dossier. Elle me dit, je vais faire l'écho, puis on verra bien. Donc, elle fait l'écho. Ça a duré, ça a été tellement long, au moins une heure, le temps qu'elle fasse toutes les mesures. Et en fait, il y a, sur cette fameuse première écho, le diagnostic de chorionicité pour les multiples, où il faut déterminer le nombre de poches et le nombre de placenta qui va déterminer le suivi de la grossesse par la suite. Donc elle termine son écho et elle me dit « c'est bon, tricorial, triamniotique, c'est parfait, on peut faire la réduction embryonnaire. »
Ah bon ?
Alors là, je me dis « je suis désolée, je comprends pas ce que vous me dites. » Et elle me dit « il y a 3 poches et 3 placenta. » Donc c'est hyper facile d'aspirer un bébé et ce sera le premier, donc celui du bas.
Elle te demande même pas ton avis.
Non, elle m'a pas demandé. Non, c'est elle m'a incroyable. Dit c'est comme ça. Et je dis oui, mais moi je veux pas en fait, je veux pas. Elle me dit non mais là vous vous rendez pas compte. Il y a des risques maternels, il y a des risques au niveau des fœtus. Voilà, il y a beaucoup de prématurité chez les triplés. C'est des grossesses très compliquées. Vous vous rendez pas compte des risques Et je vous le dis, enfin vraiment, je pense qu'il faut faire cette réduction embryonnaire. Je dis, ben non, je la ferai pas. Et elle me dit, oui, non, mais là, en fait, vous avez 21 ans, c'est quoi votre avenir, là? C'est quoi votre avenir avec 4 enfants?
Mais non.
Je lui dis, ben, je sais pas. Je sais pas, je sais pas, et on verra. Voilà, le rendez-vous s'est terminé là-dessus. Elle m'a dit, bon, ben, vous voyez avec ma secrétaire pour les prochains rendez-vous. Et donc, c'est tout ce qu'elle m'a dit, en fait. Donc, je suis allée voir la secrétaire qui m'a donné tous les rendez-vous de suivi. Donc, moi, j'avais des rendez-vous toutes les 3 semaines de programmés.
Mais t'es dans quel état, toi, après ce rendez-vous?
Ça a été hyper dur. Je me suis sentie infantilisée. Je me suis dit, bon, bah, elle croit que je sais pas ce que je fais, en fait. Effectivement, je savais pas où j'allais, mais voilà, ces bébés, ils étaient là, et je leur ai dit, je l'avais pas choisi, et pourtant, ils se sont installés. Donc, je me sentais pas capable d'en enlever un, et j'avais pas non plus envie de me laisser, débordée par tout le négatif en fait qu'elle avait envie de me donner, quoi. C'était dur. Donc arrivée dans la voiture, j'ai appelé ma sage-femme, je lui ai expliqué un peu la situation et elle m'a dit, ah ben je comprends mieux pourquoi effectivement on entendait des cœurs partout au monito. Voilà, ceci explique cela. Et là elle m'a dit, écoute, à partir de maintenant, tu te mets dans un monde bisounours et tu n'écoutes personne. Tu te mets dans une bulle et il faut que aucune parole ne t'atteigne. Voilà, il te faut beaucoup de repos et surtout beaucoup de positif, mais n'écoute pas ce qu'on va te dire. Et effectivement, ces conseils ont été hyper importants par la suite, parce que quand on annonce qu'on attend des triplés, c'est terrible, quoi. Les gens restent un peu bouche bée, ils se disent, bah non, mais ça va pas le faire, tu vas pas y arriver, tu te rends pas compte, ça va être hyper dur. Donc je me suis mise dans ma bulle. Et j'ai préparé l'arrivée de ces bébés en me disant, bon, j'ai raté des trucs avec Zéphyr, donc là, cette fois-ci, je raterai pas. Et voilà, je me suis projetée en me disant, bon, je vais accoucher par voie basse, je vais allaiter, je vais faire tout ce que j'avais pas forcément bien réussi à faire pour le premier, en me disant, bah ok, ils seront 3, mais ça va le faire quand même, quoi.
Donc là, du coup, tu mets entre parenthèses tes études, tu les as...
Ah bah oui, j'ai été arrêtée encore tout de suite. Non, j'ai pas abandonné.
D'accord.
Ouais, j'ai suivi les cours à distance. Puis en fait, j'ai passé mon diplôme quasiment dans la foulée. Et puis ça l'a fait. Voilà. En fait, j'ai été vite débarrassée de ce truc-là. Donc c'était très bien.
Chapeau. Alors comment s'est passée cette grossesse?
Alors grossesse hyper compliquée. Déjà j'ai été malade jusqu'à 4 mois et demi. Et puis un corps hyper endolori. Voilà, un ventre qui a grossi évidemment très vite. Et puis j'étais suivie donc toutes les 3 semaines au CHU avec beaucoup d'étudiants pour me suivre évidemment parce que des cas de grossesse triple il y en a pas beaucoup. La deuxième écho que j'ai faite, donc je suis arrivée la boule au ventre en me disant bon déjà j'espère qu'ils vont bien. Et puis j'avais très peur de retrouver ce médecin en fait, j'avais pas envie de la revoir. Et en fait j'ai été accueillie par un interne qui a fait l'écho en silence, pareil pendant une demi-heure, il a fait son écho. Il a posé la sonde et il m'a dit, bon, bah, c'est bon, vous allez être vu par le médecin. Je dis, bah, est-ce qu'ils vont bien? Bah, je peux rien vous dire. Vous allez être vu par le médecin. OK. Donc, il m'a fait retourner en salle d'attente. J'ai poireauté une heure et puis après, le médecin est venu me chercher et elle a fait son écho.
Donc là, c'était la même,
la même,
médecin que t'avais eu.
Même chose, voilà, très froide, elle me parlait pas. Elle a fait son écho, voilà, dans le plus grand silence encore. Elle avait toute une, enfin plein de d'externes autour d'elle, beaucoup de monde dans cette salle. Je me sentais complètement dépossédée de mon corps, quoi. C'est comme si on me touchait dans tous les sens. Chacun faisait son truc. Les étudiants prenaient l'appareil écho pour essayer de voir. Enfin, et moi j'étais là et j'avais l'impression d'être une bête de foire. Non, c'était vraiment très bizarre, quoi.
Ton chéri, il était avec toi pendant ces
échos? Il était avec moi, ouais. Bon, c'est pareil, de toute façon, il n'avait pas son mot à dire. C'était pas possible, quoi. On était là, on regardait ce qui se passait. J'essayais de comprendre les images à l'écran, parce que c'est pareil, quand il y a plusieurs bébés, c'est hyper compliqué. En fait, les images vont très vite. Je ne sais pas quel bébé est où. Enfin, c'était... Ouais, je ne comprenais pas tout ce qui se passait, quoi. Et puis, heureusement, entre ces deux rendez-vous, je m'étais quand même vachement renseignée sur les grossesses multiples. J'avais vu que Le fameux tricorial triamniotique, c'était quand même la meilleure chose. Il y avait le moins de risques, en fait. Quand il y a trois poches, trois placentas, c'est des bébés qui sont indépendants. Du coup, je savais que voilà, les risques étaient un peu moindres sur ces quatre figures-là. Donc, je m'étais dit, bon, j'y vais quand même assez sereine et voilà, je pense que ça va aller. Et donc, à la fin de l'écho, j'ai commencé à lui poser des questions. J'ai dit, bah, est-ce que tout va bien? Elle me dit, bah, oui, c'est bon, les mesures sont bonnes. J'ai dit, bon, bah, est-ce qu'on peut discuter un peu de la suite? Parce que là, je suis dans le flou. Je suis à 4 mois et demi de grossesse. Je me rends pas trop compte. Non, j'étais pas à 4 mois et demi, du coup. J'étais à 3 mois, un peu plus de 3 mois. J'ai dit, bah, je sais pas à quoi m'attendre. Elle me dit, bon, bah, de toute façon, faut vous dire que vos bébés, ils seront forcément prématurés, ça, c'est un fait. Et que ici, au CHU, avant 24 semaines de grossesse, on les prendra pas en charge s'ils naissent. Donc, avant 24 semaines de grossesse, je ferai les échos, on verra où vous en êtes. Mais voilà, ça sert à rien qu'on parle de la suite avant ce terme-là, quoi.
Toujours aussi rassurante et bienveillante.
C'est ça. Non, mais en fait, heureusement, en parallèle, j'avais ma sage-femme qui était hyper humaine et voilà, que j'appelais régulièrement parce que j'ai arrêté de me déplacer très vite. Je me suis alitée d'office, spontanément, pour pas que ça appuie sur mon col. Et je me suis dit, bah, je verrai où ça me mène, mais voilà, je mets toutes les chances de mon côté, quoi. Donc la grossesse s'est passée comme ça. Bon, j'ai des souvenirs un peu flous, hein. À part ces douleurs dans tout le corps que je ressentais tout le temps.
Et comment t'as réussi à gérer ton petit Zéphyr en même temps?
Ouais, bah c'est son père qui l'a pris en charge en fait essentiellement. Et puis bon, moi je voilà, comme j'étais beaucoup alitée, il était tout petit, hein, il marchait pas encore, donc il était beaucoup avec moi dans le lit. Je lui lisais pas mal d'histoires. Enfin voilà, j'ai continué à m'occuper de lui de cette manière-là, quoi. De toute façon, je me suis dit, je vais essayer de pas trop me culpabiliser par rapport à lui. Je vais essayer de lui donner tout ce que j'ai à lui donner. C'est vrai qu'on est dans une situation un peu inédite, mais voilà. Ça n'a pas été les moments les plus difficiles avec lui, les moments de la grossesse. Et puis, ben, j'ai été hospitalisée à 6 mois et demi, 29 semaines exactement. Donc là, ils m'ont dit, bah, vous êtes en menace d'accouchement prématuré, donc on vous hospitalise. Voilà, j'avais des comprimés à prendre tous les jours pour éviter les contractions. J'étais suivie de près, monito 2 fois par jour à l'hôpital. Bon. Là, ça a commencé à voilà être plus sérieux, quoi.
T'avais eu des informations finalement sur la prématurité, tout ce qui allait se passer?
Non, pas du tout. J'avais demandé à visiter les services, mais j'avais pas eu de retour. Et en fait, j'ai fait une très belle rencontre pendant cette hospitalisation, une sage-femme. Génial, dont je me souviendrai toujours, qui m'a bien accompagnée. Et voilà, c'est elle qui m'a donné beaucoup d'informations sur la suite des événements, quoi, en me disant, bon, des grossesses triples, on en a à peu près une fois par an, ça se passe bien, de toute façon, bah voilà, vous êtes des femmes qui êtes suivies de près, donc dès qu'il y a une petite alerte, voilà, on fait en sorte que tout se passe bien, quoi.
Enfin, quelqu'un de rassurant.
Oui, voilà, c'est ça. Et puis, en fait, elle m'a permis aussi d'aller visiter les services de réa et de soins intensifs. Donc, je me suis projetée. Je me suis dit, bon, OK, je suis prête, là. Je comprends ce qui va se passer. Je sais que je vais être séparée d'eux à la naissance. Mais ça va être pour leur bien, pour qu'ils grossissent, qu'ils grandissent. Et là, le but, c'est de tenir le plus possible. Et c'est rigolo parce que contrairement à ma première grossesse, j'ai compté en semaines. Donc c'était des paliers. Chaque semaine était un palier en fait. Donc à chaque fois c'était une petite victoire quoi. Je savais, j'avais un bouquin avec marqué 30 semaines, votre bébé est comme ça, 31 semaines, etc. Et en fait, bon la sage-femme m'avait dit les multiples maturent plus vite, le corps est bien fait. Donc voilà, en général, ils ont un petit temps d'avance sur les bébés uniques, quoi.
Et tu devais aller jusqu'à combien de semaines, alors
Il m'avait dit maximum 34 semaines. 34 semaines, on les fait naître parce qu'après, ça devient dangereux, en fait. Voilà, donc c'était D'accord. l'objectif à atteindre. Et puis, à arriver le jour des 32 semaines, je me sentais vraiment pas bien. Je leur ai dit, bon, je crois qu'il faut arrêter les médicaments. vous arrêtez de contrôler mon corps. Je suis fatiguée, j'ai mal partout, j'en peux plus. Donc on laisse la nature faire les choses. Et voilà, je sentais que j'étais vraiment à bout de force. Puis ça faisait déjà 3 semaines que j'étais séparée de Zéphyr. Je trouvais ça vraiment très dur et je pouvais plus. J'étais plus capable de donner en fait. Et je sentais que mon corps était à bout, vraiment à bout.
Ton ventre, il était
énorme. Bon, j'ai pas pris beaucoup de poids, j'ai pris que 15 kilos. Hein. En vrai, c'est pas énorme, mais voilà, j'avais mal, j'avais vraiment mal partout. Quoi. Et donc ils ont accepté ma demande. Ils m'ont dit bon bah d'accord, 32 semaines c'est un bon terme, on arrête et on voit ce que ça donne. Et 3 jours plus tard, je me suis mise en travail spontanément. Mais c'est étrange, je me suis pas dit tout de suite que j'étais en travail. Pourtant, j'avais connu ça pour Zéphyr. J'ai pas réussi à appeler en disant que je sentais que voilà, ça se préparait. Je sais pas. Et en fait, ma mère était venue me rendre visite ce jour-là et on était en train de déjeuner. Et puis elle me dit mais ça va pas, il y a un truc qui va pas, t'as pas l'air bien. Je dis bon non, je me sens pas bien aujourd'hui. Je suis fatiguée. Je sais pas. J'ai envie d'être tranquille. J'ai envie qu'on me laisse. Et elle me dit, mais tu veux pas appeler quand même, c'est un peu bizarre. Bon, et puis je dis, bah non, je profite. En plus, elle était venue avec Zéphyr, donc j'étais contente. Je dis, ah non, je profite de Zéphyr. Puis elle me dit, écoute, t'appelles, voilà, ils font le point avec toi, et puis on voit ce que ça donne après, quoi. Et puis je reviens après dans la chambre. Donc elle sort, et c'était l'interne de garde qui était là. Il me dit, il m'ausculte, enfin, il entend en fait que je suis pas bien, qu'il y a un truc qui va pas. Il me dit, bon bah, on va poser un monito et puis on va voir ce que ça donne. Donc non, il m'ausculte pas tout de suite. Donc la sage-femme vient poser le monito et en fait sur le monito, effectivement, on voit les contractions quand même assez régulières et tout ça. Mais j'avais pas spécialement mal en fait. Donc là, il revient, il dit, bon bah, sur le monito, il y a beaucoup de contractions, je vous ausculte, on voit ce que ça donne. Et en fait, j'étais dilatée à 5 cm. Il me dit, non, mais en fait, c'est imminent, l'accouchement, faut y aller, on part en césarienne.
Ah oui.
Ouais. Et je lui dis, non, mais vous savez, moi, je veux pas accoucher par césarienne. Voilà, j'avais dit au médecin que je voulais une voix basse, et ça me tient à cœur, en fait. Et il me dit ouais mais ça va pas être possible là. Je pense qu'il se sentait pas trop à même de faire un accouchement voix basse de triplé prématuré. Et puis il me dit non bon, ce qu'on va faire c'est que je fais une écho, je vois la position des bébés et puis on réfléchit après. Et en fait sur l'écho, il a vu que voilà le premier bébé était en transverse sur mon col, donc vraiment le dos sur mon col. Je pense que ça l'a bien arrangé. Moi, ça m'a fait comprendre que bah non, c'était pas possible, c'était comme ça, donc ce serait une césarienne. Et puis voilà. Donc je me suis dit bon ok, j'aurais connu un accouchement voix basse, une césarienne. Bon. Et donc on est parti très vite. Donc là, voilà, il y a eu une espèce de tourbillon autour de moi, beaucoup de gens, beaucoup de monde dans le bloc. Voilà, le papa pouvait pas être avec moi.
Tu t'étais préparée toi à avoir une césarienne?
Oui, je m'étais préparée. Voilà, le médecin m'avait dit que c'était plus fréquent les césariennes pour les grossesses triples que les accouchements voix basse. En fait, elle m'avait expliqué qu'effectivement, le temps que le premier bébé naisse, voilà, après il y avait le deuxième, et puis le troisième avait le temps de se fatiguer in utero. Donc voilà, chez des enfants prématurés, souvent c'est pas terrible. Donc elle m'avait clairement préparé une césarienne, mais j'avais quand même cette petite lueur d'espoir au fond de moi. Parce que j'avais besoin, puis j'avais bien accouché pour Zéphyr, donc je me disais, bah, ça va être un deuxième, ça va le faire, quoi. Bon, donc non, là, voilà, on est parti comme ça, vraiment en urgence. Là, j'ai vu que, voilà, on était dans une situation quand même particulière. Je pense qu'eux auraient préféré que ce soit une césarienne programmée pour l'organisation, parce que j'ai vu que ça mobilisait quand même énormément de personnes. Mais bon, voilà, ça a été de l'urgence. Ils se sont adaptés, quoi. Donc, je suis allée toute seule au bloc. Mon papa n'avait pas le droit d'être avec moi. Et ils ont sorti les bébés... ils ont sorti le premier bébé. Ils m'ont dit, bon, bah, le premier, c'est un garçon. Je savais, on avait demandé les sexes, donc je savais qu'il y avait 2 garçons et 1 fille. On avait choisi les prénoms. Et comme ils bougeaient différemment, je savais qui était qui, en fait, déjà, in utero.
Ah oui.
Ouais. Donc là, je savais que ce premier bébé, qui était extrêmement dynamique dans le ventre, ce serait Balthazar. Je me disais, ce prénom un peu chantant, ça va bien lui aller. Et puis, le deuxième garçon, c'était Adhémar. Et Adhémar, j'avais l'impression que t'es plus posée. Et effectivement, in utero, c'était un bébé qui bougeait moins, quoi. Donc, Balthazar est né. Ils l'ont emmené tout de suite. Je l'ai pas vu. Ils me l'ont approché. Je lui ai fait un bisou. Ils l'ont emmené. Ils ont sorti son placenta. Et puis, pareil pour Adhémar. Adhémar est venu. Je lui ai fait un bisou. Il est parti. Et puis, Opal, donc la troisième petite fille, première petite fille, pareil, je lui ai fait un bisou et ils l'ont emmenée. Et je me suis retrouvée là, comme ça, seule. Enfin, seule avec toute l'équipe, en fait, mais sans mes bébés, quoi. Et là, je me suis mise à vomir mes tripes. Mais vraiment, j'étais mal en point. Je me disais, mais oh, malade. Je pense que c'était les nerfs qui ont lâché aussi. Puis, je crois qu'ils m'avaient injecté trop de produits pour la césarienne. Enfin, bon. Un combo gagnant, quoi. Et là, ça a duré hyper longtemps. C'est un peu flou, hein, mais le temps de me recoudre et tout ça. J'ai quand même eu une sage-femme qui est venue me voir en me disant « Vos bébés vont bien, ils ont été emmenés en soins intensifs. » Voilà, c'est tout ce qu'elle m'a dit. Je pense que c'est tout ce qu'elle a pu obtenir comme réponse. Voilà, je savais qu'ils avaient été pris en charge par les pédiatres et c'est tout, quoi.
Le papa avait pu les voir ?
Oui, en fait, lui, il attendait avec les pédiatres, donc il les a vus arriver. Bon, ils sont restés très peu de temps avec les pédiatres, hein, ils sont montés tout de suite pour être pris en charge. Et quand je suis arrivée en salle de réveil, il m'attendait avec l'appareil photo dans les mains et il commence à me montrer des photos et en fait, il dit, je sais pas qui c'est. Il dit, j'ai pris des photos, mais je sais plus qui est qui, donc je les ai regardées, puis... c'était un peu étrange, quoi. J'avais du mal à intégrer que voilà, ils étaient plus dans mon ventre. Ouais, c'était bizarre. C'était bizarre parce qu'ils étaient plus dans mon ventre, mais ils étaient pas non plus à côté de moi, quoi.
Ouais.
Et donc après, j'ai été ramenée en chambre et ils m'ont dit vous les verrez dans 24 heures.
Ah oui, seulement.
Ouais, seulement. Et je sais pas pourquoi. Mais effectivement, je les ai vus que 24 heures plus tard. Donc, ça a été hyper dur. Je me suis demandé pourquoi on me privait d'eux comme ça, mais je sais pas, je pense que c'était les protocoles. Puis, j'ai jamais reposé la question, en fait. Donc, j'ai pas su. Bon, je me suis reposée. J'avais ma césarienne qui me faisait hyper mal. Voilà, c'est quand même passé assez vite. Et puis le lendemain, il y a une sage-femme qui m'a montée pour les rencontrer. Et je me souviens très bien que quand je suis arrivée en soins intensifs, elle m'a dit, il y a Adhémar. Et dans l'autre salle, il y a Opal et Balthazar. En fait, les box sont conçues pour recevoir deux enfants et non pas trois. Donc, elle m'a dit, on va commencer par Adhémar. Et quand je suis arrivée devant la couveuse... Je l'ai regardé, je me suis dit, non, en fait, c'est pas mon bébé. Il est trop petit, j'ai accouché à 32 semaines, il est bien trop petit, c'est pas lui, c'est pas possible. On m'a dit que c'était un bon terme, mais là, c'est pas possible. Je me dis, si, c'est lui, il pèse 1,560 kg, voilà, c'est bien votre bébé, quoi. Donc là, je l'ai regardé, je dis, j'aimerais bien voir les autres. Donc, on est allé voir les autres et c'est devant la couveuse de Balthazar que je me suis effondrée. J'ai fait que pleurer. Je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai fait, quoi? Pourquoi est-ce que j'ai pas écouté le médecin? C'est la catastrophe, quoi. J'ai fait des prémas, ils sont en couveuse, ils sont branchés, ils sont sous respirateur. Sauf Balthazar. Balthazar, il respirait tout seul à la naissance. Mais je me suis vraiment dit, mais je suis un démon, quoi. J'ai mis au monde des enfants et voilà, j'ai joué avec leur santé.
Tu as eu un peu l'écho de cette femme médecin qui t'avait dit toutes ces choses?
Oui. Puis je me suis dit, on m'a dit que 32 semaines, c'était bien, mais non, c'est pas bien. C'est pas bien du tout, quoi. Voilà. Je me suis dit, la situation est comme ça. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire pour eux maintenant? Parce qu'ils sont là, ils sont pris en charge par les soignants. Je pouvais à peine glisser ma main dans les couveuses. J'ai dit, il va falloir que je trouve un truc, parce que il va falloir qu'on ait un lien, tous les quatre. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit, je vais tirer mon lait, souvent, beaucoup, pour qu'il puisse avoir mon lait rapidement, quoi. Et donc, quand j'ai demandé un tire-lait, les sages-femmes m'ont dit « Non, mais c'est trop tôt, ça fait 24 heures que vous avez accouché, la montée de lait ne va pas se faire tout de suite. » J'ai dit « Ouais, mais moi, je n'ai pas mes bébés, en fait, pour faire ma montée de lait. Donc, il faut me donner un tire-lait et puis je vais tirer mon lait, quoi. » Donc, elles ont fini par me donner un tire-lait. Et en fait, je me mettais un réveil toutes les 2 heures, nuit et jour. Toutes les 2 heures, je tirais. Et petit à petit, j'ai fait du lait, j'ai fait ma montée de lait et je me disais, c'est bon. Je sais qu'ils ont mon lait, c'est la seule chose que je peux faire pour eux en ce moment, donc je le fais.
Parce que là, du coup, on te dit qu'ils vont rester combien de temps en soins intensifs ?
On m'a dit, ils resteront jusqu'à leur terme. Donc, en fait, ils sont nés le 9 octobre à 32 semaines et j'avais un terme au 10 décembre. Donc, ils m'ont dit, oui, ils sortiront au 10 décembre, quoi.
D'accord.
Ça paraît long, 2 mois. Et moi, je suis sortie au bout de 5 jours. Parce que, j'occupais une chambre. Ils essaient de sortir rapidement les mères, surtout quand elles n'ont pas leur bébé. Je suis arrivée chez moi, j'ai fait que pleurer. J'ai pleuré. Je dis, j'ai pas mes bébés, quoi. Je sais pas comment je vais faire sans eux. Je vais pas y arriver, je pense.
Ouais.
Et puis, en fait, le quotidien nous a un peu rattrapés. On a mis un rythme en place. On passait nos matinées avec Zéphyr. L'après-midi, je le confiais à mes parents. Et puis, on passait l'après-midi en soins intensifs. Puis je continuais à tirer mon lait. J'emmenais le lait au lactarium. Enfin, c'était assez ritualisé. Et puis, petit à petit, on a pu faire du pot à pot. Moi, je m'étais acheté une écharpe de portage. Qui m'a suivie longtemps en fait et je les mettais dedans en soins intensifs avec tous leurs fils là branchés de partout c'était un peu spécial mais c'est comme ça que j'ai réussi petit à petit à créer le lien et à me sentir un peu mère de ces bébés mais en fait c'est très dur hein, de se sentir mère quand on n'a pas ces bébés auprès de soi et surtout quand ils sont pris en charge par d'autres personnes ça c'est un peu étrange. Parce que j'étais pas toute la journée avec eux, quoi. Donc faut faire confiance et puis les laisser grandir, quoi.
Alors quelle a été l'étape d'après ?
L'étape d'après, ça a été. Ils sont restés 6 semaines hospitalisés, donc 6 semaines assez difficiles pour moi à vivre parce que j'avais toujours mes petites idées en tête de maternité, mes petites envies. Et c'était pas forcément très bien vu par le personnel soignant. J'ai été convoquée par la cadre de service parce que je n'avais que 21 ans, 22. J'avais 22 ans et que je savais pas y faire. J'ai fini par lui dire non, mais en fait, moi, je suis pas d'accord. Ces bébés, j'ai envie de m'en occuper. J'ai pas envie que tous les gestes que je peux faire soient faits à ma place. Donc, il va falloir qu'on trouve un compromis ensemble et qu'on m'accompagne parce que moi, je veux les allaiter. Donc, il y a un moment donné où il va falloir m'aider à les mettre au sein. En fait, les prématurés, ils ont un réflexe de succion qui arrive à 34 semaines. Donc, il y a eu un battement de 2 semaines entre le moment où ils sont nés et le moment où j'ai pu vraiment les mettre au sein. Et petit à petit, ils m'ont quand même accompagnée dans ce chemin-là. Et c'est ce qui m'a permis de me dire, je fais quand même quelque chose pour eux. Et donc, on a sorti Balthazar avant les autres. Balthazar est sorti au bout de 5 semaines parce qu'il allait bien. Mais en fait, je pense que c'est la plus grosse erreur que j'ai faite. Il a fait que pleurer à la maison. Il pleurait tout le temps.
Ah, il est rentré chez vous
Il est rentré. Parce qu'il allait bien. Je me suis dit, autant qu'on le ramène après tout. Et en fait, il pleurait tout le temps. Et on le ramenait l'après-midi voir son frère et sa sœur en soins intensifs. Enfin, ils avaient basculé en néonat. Quand on l'emmenait l'après-midi en néonat, il pleurait plus. Et en fait, on m'a expliqué après que c'était des bébés qui avaient l'habitude d'entendre les machines. Depuis qu'ils sont nés, ils entendent les machines, les bips, et du coup, ils sont habitués à ça. Donc, quand on ramène un bébé préma à la maison, il a plus ces bruits-là, donc il est un peu inconfortable, en fait. Donc, ça a été une semaine assez longue, et puis ils ont fini par accepter de sortir Opal et Adémar. Donc, ils pesaient tous les trois à peu près 2,1 kg à 6 semaines. Donc, finalement, on n'est pas allé jusqu'au 10 décembre, ils sont sortis le 16 novembre, et l'aventure a démarré à ce moment-là, quoi.
Alors, niveau logistique, justement, ce dont ton chéri s'inquiétait.
Ouais, bah on a fait simple. Voilà, nous on s'est installé dans le salon, on a mis un lit et puis on les mettait tous les trois dans le sens, dans l'autre sens en fait, pour qu'ils soient collés. Moi je voulais qu'ils soient ensemble. Comme ils avaient été séparés dans les couveuses, j'avais besoin de les rassembler. Donc on les a collés comme ça et puis bah du coup voilà, je les allaitais mais tout le temps en fait. Tout le temps. Oui, il faisait que ça. Il tétait tout le temps. C'était un truc de fou, quoi.
C'est une sacrée organisation, l'allaitement de triplé.
Énorme organisation, ouais. Bon, et puis une énorme fatigue, en fait. Et puis j'ai fait des mycoses au niveau des seins et tout. Enfin, c'était pas cool. C'était pas un chouette allaitement, mais voilà, je me disais, bah oui, mais ils ont besoin de ça pour bien grandir. Donc, je continue. Et puis... J'y vais, quoi. Je me pose pas de questions. Et en fait, c'est ça. Je suis rentrée en mode machine de guerre, sans me poser aucune question, parce qu'on n'a pas le temps, de toute façon, de se poser des questions. Et puis, si on s'en pose, je pense qu'on sombre tellement la fatigue est présente. On dormait pas la nuit, hein. C'était des micro-siestes tout le temps, quoi. Nuit et jour, voilà. Et puis, il y avait Zéphyr, la journée, quand même, à gérer. Donc,
Eh oui.
Je sais pas trop comment on a fait. On l'a fait. J'ai pas des souvenirs très précis de cette période-là. Je sais juste que je les ai allaités jusqu'à 3 mois et à 3 mois, j'avais perdu tellement de poids que le médecin m'a dit, bah non, là, vous faites 45 kilos, à un moment donné, il faut se calmer, vous êtes hyper fatigué, ce serait peut-être bien d'introduire des biberons. Donc petit à petit, on a introduit des biberons et ils ont été jusqu'à 6 mois. Donc quand même, grosse satisfaction d'avoir réussi à mettre en place l'allaitement avec 3 bébés. Et puis, la première année, c'est une année hyper enfermante, en fait, parce que, on peut pas trop sortir, on n'est plus tellement invité. Puis nous, on est dans un rythme de non-sommeil, de biberon, de couches, de linge. C'était terrible, quoi. C'était dingue. Et puis, je me suis imposé des petites contraintes. Je les ai tous mis en couche lavable. Donc, je sais pas. Ouais, j'avais un besoin comme ça de faire ce genre de choses. Mais bon, après, voilà. C'est comme si je me disais, la prématurité fait qu'il faut que je leur apporte des choses saines. Donc voilà, je savais qu'ils avaient mon lait, je mangeais sainement, ils étaient en couche lavable, ils n'avaient pas de produits chimiques sur les fesses, voilà. Et je les ai laissés grandir de cette manière-là, quoi. Et puis les années ont passé, gros enfermement parental. Moi, j'ai vraiment ce souvenir-là. Et puis dès qu'ils ont commencé à marcher, là, on peut plus trop se balader, c'est tout est compliqué, quoi. Puis on n'a pas 3 bras, on en a que 2. Dès que je voulais me promener seule, j'avais une poussette triple, j'avais un 4e sur le dos en ergo, mais c'est colossal, quoi. La préparation, déjà, il fallait un temps fou pour les préparer. Et puis, les 3 premières années sont passées comme ça, et quand ils sont entrés à l'école, moi, j'ai eu une grosse remise en question dans ma vie, et je me suis dit, là, j'ai besoin de changer quelque chose, j'allais pas très bien. J'étais pas bien dans ma vie et j'ai remis en question mon couple en me disant je crois qu'on n'est pas sur la même longueur d'onde, on n'a pas les mêmes envies et je pense qu'il va falloir que j'opère un changement à ce niveau-là.
D'accord.
Ouais.
Alors ?
J'ai commencé à me poser des questions toute seule et en fait j'ai commencé à me confier à un ami proche que je connaissais depuis longtemps, qui m'a suivie dans mes maternités, qui a toujours été présent en fait. J'ai commencé à me confier à lui et il m'a dit ce que tu me décris, c'est étonnant en fait. Et effectivement, t'as pas l'air très bien en ce moment. Et on a commencé à discuter plus en détail tous les deux. Et je me suis dit je crois qu'il faut que je me barre, quoi. Vraiment, je vais prendre mes gosses et je vais m'en aller. Et en parallèle, j'ai bien senti qu'il se passait un truc avec cet ami en question et je me suis dit. Je savais pas trop dans quoi je m'embarquais. Lui, il savait pas trop non plus. J'avais 25 ans. Il avait aussi 25 ans. Lui, il avait pas d'enfant. Moi, j'en avais 4. Enfin, c'était n'importe quoi. C'était vraiment étrange, quoi. Et ben j'ai annoncé à mon mari de l'époque, je lui ai dit bah, écoute, moi ça marche plus, je pense que ça marche plus, j'ai plus envie de ça, je me sens pas bien dans notre couple et puis je crois que je suis en train de tomber amoureuse et faut que ça s'arrête quoi.
Donc la divorce.
Ouais. Bon, finalement c'est lui qui est parti. Donc c'était très bien. Je me suis retrouvée avec mes 4 enfants et je me suis sentie mieux en fait. Je sais pas pourquoi, comme si j'avais été déchargée d'un poids. J'ai commencé à réorganiser ma vie juste avec mes enfants. On a fait un espèce de cocon là, tous les 5. C'était pas mal du tout. Moi j'étais en congé parental, donc j'étais 100% dispo pour eux. Et en parallèle, et ben voilà, on a développé un peu notre histoire d'amour là, tous les deux, et voilà, sans savoir si ça allait vraiment marcher, parce qu'il m'a quand même dit, bah moi je sais pas si j'ai envie de m'embarquer là-dedans quoi. Je voyage beaucoup, j'aime bien bouger, j'aime bien sortir. On va pas être sur les mêmes rythmes, et puis je sais pas si j'ai envie de m'occuper de 4 enfants quoi.
Eh oui.
Et ouais.
Ce qui peut se comprendre.
Exactement. Donc je lui ai dit, bah ouais, je comprends. Bah écoute, je sais pas. Et en fait, bon, on n'a pas réussi à faire en sorte que ça ne fonctionne pas. C'était plus fort. Donc on s'est dit, bon, bah on essaie et puis on verra bien. Donc moi, je vivais chez moi. Lui, il habitait à 30 km dans son appart et on n'était pas ensemble la semaine, quoi.
Et vous aviez organisé une garde partagée avec le papa des enfants ?
Oui, bah, moi je m'étais un peu battue pour avoir la garde en semaine et lui il les prenait un week-end sur deux. Et les fameux week-ends où il avait les enfants, et ben, c'est des week-ends où moi j'allais rejoindre Gueltaz chez lui et où je pouvais vraiment souffler en fait. Et c'est comme ça qu'on a réussi à avoir une sorte de vie de jeune couple quoi. Voilà, on avait une vie un peu normale quand les enfants n'étaient pas avec moi, quoi.
Et alors, au bout de combien de temps une troisième grossesse arrive ?
Ça a pris du temps parce que moi, j'ai vécu 18 mois toute seule. Ensuite, voilà, on a commencé à vivre ensemble. Mes enfants allaient presque avoir 5 ans, les 3 petits. Zéphir, 6, il est rentré en CP. J'ai repris le travail aussi. Entre-temps, on s'est mariés, on a acheté un appart. Bon, on a eu pas mal de projets comme ça. Puis on est parti en voyage de noces au mois d'avril. Donc les enfants, les trois petits étaient en CP et Zéphir en CE1. Et là, on savait que voilà, on parlait depuis un moment de faire un enfant ensemble et je m'étais dit bon, c'est le dernier. C'est le dernier, j'en ai besoin, il faut que je recrée quelque chose avec cette maternité un peu ratée, parce que quand on a des triplés, on n'a pas le temps de materner. Oui, je les ai portés en écharpe, mais c'était la chaîne. Oui, je les ai allaités, mais c'était la chaîne. Enfin, j'ai jamais profité, quoi. Donc, je me suis dit, il faut que cette fois, j'ai un bébé pour réussir à faire en sorte d'avoir une maternité normale, quoi. Et puis lui, il s'était dit, j'en aurai qu'un, mais c'est très bien, ça va être sympa, il y a les 4 grands au-dessus, voilà. Donc on est parti en voyage de noces et on est parti en avril. Moi, je voulais pas de bébé de début d'année. Je sais pas, j'avais pas envie d'avoir de bébé du mois de janvier, c'était trop proche des fêtes. Donc je lui avais dit, écoute, comme les 2 fois je suis tombée enceinte très vite, je fais enlever mon stérilet. Au mois de mai, quoi. Au mois de mai, et je me disais, si je tombe enceinte tout de suite, ça fait un bébé au mois de février, mi-février, un truc comme ça, ça peut être pas mal, quoi. J'ai fait enlever mon stérilet début mai. 5 jours après, j'étais enceinte.
Ah oui.
Ouais, donc là, pareil, hein, j'ai fait mon test qui a viré très vite. Et puis, le médecin qui me suit... Non, c'était ma gynéco. Ma gynéco me dit, on va faire une prise de sang, et puis pour faire le taux de bêta-HCG, quand même, pour voir. Et puis, au moment où j'ai reçu les résultats, je n'étais pas à même de les lire, parce que j'étais au travail, je ne pouvais pas les lire. Donc, j'avais dit à Gueltas, écoute, tu ouvres le fichier et tu regardes si tout va bien et tout. Il m'envoie un SMS et il me dit, c'est bon, tu es bien enceinte de 7 semaines. Je fais 7 semaines, mais n'importe quoi, c'est complètement impossible. J'avais calculé, j'étais à 3 semaines max, donc n'importe quoi en fait. je réponds, je dis, mais tu me racontes n'importe quoi, c'est pas possible. Et tout, il me dit, bah, si, si, je te jure, c'est ce qui est marqué sur le papier. Parce que vous savez, enfin, tu sais, il y a les, en fonction du taux, là, ils te disent combien de semaines environ. Enfin, bon, bref.
Ouais.
Bon, je laisse passer ce truc-là, on s'en fout. Je me dis, je suis enceinte, c'est le principal, quoi. 4 semaines, tout pile après mon début de grossesse, je commence à perdre du sang. Là, je me dis, ah non, c'est la cata, je suis en train de faire une fausse couche. Et puis vraiment beaucoup de sang, quoi. Un truc, j'étais toute seule avec mes 4 grands, et j'étais là sur les toilettes en train de... Oh, je me disais, mais non, c'est pas possible et tout, je suis en train de perdre le bébé, c'est la catastrophe, je fais une fausse couche. Oh, j'appelle la gynéco et je lui dis, je perds du sang, qu'est-ce que je fais? Et elle me dit, faut venir tout de suite, j'ai des rendez-vous d'urgence, voilà. Et donc, j'appelle Gueltaz et je lui dis, bah écoute, je perds beaucoup de sang, la gynéco m'a dit de venir. Donc je file la voir et là il me dit bah, est-ce que tu veux que je vienne avec toi? Je dis non mais t'inquiète, ça va aller, voilà, c'est comme ça que ça s'est fait. Et donc je suis arrivée et elle a posé la sonde et on a tout de suite vu les 2 poches. Il y avait vraiment aucun doute sur le truc. Donc là je me mets à pleurer. Je dis mais c'est pas possible, encore des jumeaux, mais qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Enfin, c'est pas possible, quoi. Donc là, elle enlève la sonde. Elle me dit, bon, écoute. Enfin, écoutez. Elle me connaissait bien, mais non, vous voyez quand même. Elle me dit, tout va bien. Oui, c'est des jumeaux. Vous avez eu des triplés. Vous savez faire. J'en suis convaincue. Je le sais. Vous me l'avez prouvé. Et en plus de ça, votre mari, il n'a pas encore d'enfant. Je suis sûre qu'il va être ravi d'en avoir 2. Donc, ça va aller, quoi. Donc là, elle fait l'écho et tout. Bon, ils étaient minuscules, hein. On voyait à peine sur l'image, quoi. Je ressors de là, complètement déboussolée, en me disant, mais c'est pas possible, quoi. Mais pourquoi ça me tombe dessus? Moi, je voulais qu'un seul bébé. Je m'étais projetée avec un seul bébé. Ça allait très bien comme ça. Tout me paraissait simple, en plus, à l'idée d'accueillir un seul bébé, quoi. Là, bon, c'était un peu la cata. Donc, je sors du rendez-vous. J'appelle Gueltaz. Je lui dis, Et non, je me mets à pleurer. Il dit, mais ça va pas et tout, il y a plus de bébé, t'as fait une fausse couche. Je dis, mais non, ça va, mais c'est juste qu'il y en a 2. Et il me dit, ben non, c'est pas possible. Je dis, mais si, je te jure, il y en a 2, quoi. Et là, il me dit, ben, c'est dingue ce qui nous arrive. Je suis rentrée chez moi, toute seule. Et il m'a retéléphoné à arriver à la maison, puis il me dit, bah, écoute, je vais aller chercher les grands à l'école, et tu te reposes un peu, et puis on rediscute ce soir, quoi. Et donc, il rentre avec les grands, et je leur avais pas dit que j'étais enceinte. J'avais les yeux tout rougis et tout, je me suis dit, bon, j'espère qu'ils vont pas trop voir que ça va pas. Et je ne sais pas pourquoi, Opal s'approche de moi, et elle me dit, tu sais, maman, j'ai réfléchi à quelque chose, un bébé, c'est un peu dur, mais ça va. 2 bébés, ça commence à être difficile. Et 3 bébés, c'est encore plus dur. Mais bon, je crois que quand même, avoir plusieurs bébés, c'est bien. Et elle me dit ça comme ça. Hyper étonnant.
Incroyable.
Non. Là, on a pris le temps de discuter tous les deux. Il me dit, non, mais écoute, ça va être chouette. De toute façon, voilà, qu'on en ait 4, 5 ou 6, est-ce que ça change vraiment la donne? Bon, puis moi, je suis content. Enfin, c'est chouette. Je ne m'étais pas projetée avec 2 bébés, mais du coup, bon, voilà. Ça va le faire, quoi. Du coup, on s'est dit, bon, bah, OK, on y va. Encore une fois, c'est parti. Moi, j'ai dit adieu petit à petit à toutes mes projections simples.
Ah oui.
Eh oui, donc, je sais pas comment je vais gérer cette maternité-là avec 4 grands au-dessus. Donc là, je me suis quand même un peu moins posé de questions. En revanche, j'ai eu des énormes angoisses pendant toute la grossesse de la prématurité. J'ai plein de choses qui sont remontées. Je faisais des cauchemars. J'avais peur que ça recommence, en fait. Je me suis dit, j'attends encore des multiples. Je vais encore accoucher prématurément. Et on avait beau me rassurer, les professionnels me rassuraient et tout. J'étais complètement enfermée dans ma souffrance et dans mon angoisse de la prématurité, quoi. Donc je me suis dit, bon bah cette fois-ci j'essaie de pas cumuler les professionnels. Donc ma gynéco obstétricienne, elle était habilitée à à suivre des grossesses gémellaires. En plus, c'était une grossesse simple, bicoriale, biamniotique, donc encore de poche et de placenta, donc issue de deux fécondations. Hein. Et donc, elle m'a suivie pendant toute ma grossesse. En parallèle, j'allais toujours voir la sage-femme. Donc voilà, j'ai réussi quand même à avancer dans cette grossesse un peu plus sereinement. Mais je ne sais pas pour quelle raison, je me suis alitée d'office. Je me suis dit, non, cette fois, je n'aurai pas de préma, donc je m'alite. Je n'ai posé de questions à personne. Bon, la grossesse avait un peu mal démarré, en fait, parce que du coup, les saignements, c'était quand même... J'avais un hématome rétroplacentaire. Donc là, j'avais quand même besoin d'un peu de repos. Et en fait, ce repos, je l'ai gardé toute la grossesse. Voilà. De toute façon, j'étais hyper fatiguée. Je sentais que ça tirait encore vachement sur mon corps. C'est quand même très éprouvant comme grossesse.
Ah oui.
Ouais. Et puis du coup, alors terme prévu au 5 février, donc sauf que des multiples, mais en général ça arrive avant, donc je me suis dit mais c'est pas possible, je voulais pas des bébés de début d'année, et en fait là c'est sûr ça va être ça quoi. Puis bon bah voilà, je me souviens plus trop de cette grossesse. Je sais qu'on a préparé petit à petit l'arrivée de ces bébés, qu'on n'était pas du tout en accord sur le fait de connaître les sexes ou non. Moi, j'avais pas envie parce que j'avais peur d'attendre deux garçons. Et je m'étais dit, je me projetais pas avec cinq garçons. Donc, je m'étais dit, non, je veux pas demander. Et de toute façon, je sais que quand je les aurai sur le ventre, voilà, ce sera un peu instantané. Mais j'ai pas envie de réfléchir à ça pendant la grossesse. Je préfère me projeter mixte et puis on verra, quoi. Gueltas, lui, avait besoin de connaître le sexe, mais finalement, il m'a suivi, il m'a dit, ok, si vraiment tu veux pas, on continue comme ça, et puis on saura ça à la naissance. Et c'est bien parce que ma gynéco, elle m'a jamais laissé entendre quoi que ce soit, donc ça, c'était hyper chouette. Et puis, j'ai été suivie par un... Parce qu'au bout d'un moment, là, il faut être suivi par un obstétricien, donc j'ai changé de mater, donc c'était quand même la troisième mater que je faisais.
Ouais.
Et lui, il a entendu que j'avais envie d'accoucher par voix basse. Il a vraiment bien écouté. Et j'ai eu l'impression d'avoir été prise en compte, quoi. Je me sentais moins dépossédée de mon corps. Donc, plus prise au sérieux. Et puis, je sais pas, j'ai senti qu'il était vraiment à l'écoute de mes demandes, quoi. Donc, il m'a dit, accouchement voix basse, oui, sauf qu'il va falloir rentrer dans des critères particuliers, parce que là, on parle d'une voix basse après une césarienne, en plus sur un utérus cicatriciel après des triplés, c'est quand même particulier, et là, des jumeaux, donc encore un utérus très distendu, donc il savait pas trop comment ça pouvait se passer, quoi. Donc il m'a dit, il faudra pas dépasser 37 semaines, de toute façon à 37 semaines, on mettra au monde les enfants, quoi qu'il se passe. Donc si vous vous mettez en travail spontanément avant, et que le premier bébé a la tête en bas, on laissera faire.
Top.
Donc là, je me suis dit, ah, c'est cool, j'étais vraiment dans une bonne dynamique, quoi. Il m'a hyper rassurée, c'était chouette. Et effectivement, je me suis mise en travail spontanément. J'ai perdu les os à la maison, en pleine nuit, dans la nuit du 1er au 2 janvier. Donc on a appelé ma belle-mère en catastrophe, qui avait fait la fête pour le nouvel an la veille. Enfin, elle n'avait pas dormi de la nuit, hein, la pauvre. Elle est arrivée en pleine nuit chez nous, bon. Et on est parti à, je crois qu'il était 23 heures à la maternité. On est parti comme ça.
Donc là, tu étais à combien de semaines?
J'étais à 36 semaines et 4 jours. Donc pas mal du tout. Ouais. Là, j'étais sereine. Et de toute façon, j'avais envie d'accoucher. J'avais passé les fêtes de Noël. Je m'étais dit, je passe les fêtes de Noël. Je passe le 1er janvier et après, c'est bon, quoi. Je marche. Donc, j'ai recommencé à faire tout ce que j'avais envie de faire. J'étais un peu fatiguée, mais en tout cas, je bougeais pour accoucher parce que je sentais que ça me tirait encore vraiment sur le corps, quoi. Donc, je suis arrivée assez sereine côté prématurité. Si c'est bon, on a passé tous les termes critiques. Normalement, ça va aller et je vais les avoir tout de suite avec moi, quoi. Et quand je suis arrivée, j'ai été prise en charge par une sage-femme pas du tout à l'écoute. Horrible, qui m'a fait un mal de chien en m'auscultant. Je lui ai dit, je pleurais. Je lui ai dit, vous me faites hyper mal, là. Oui, mais j'arrive pas à sentir votre col, arrêtez de bouger. Et je faisais que pleurer. Je lui ai dit, mais vous me faites hyper mal, c'est pas possible, en fait. C'est pas possible. Je me suis dit, ah ben ça y est, ça recommence. Je vais encore être prise en charge d'une manière qui ne me plaît pas. Je vais encore avoir des regrets et tout ça. Bon. Et puis là, elle me dit, bon, bah, de toute façon, j'arrive pas à avoir votre col. Je vais appeler l'anesthésiste et on va vous mettre la péridurale tout de suite. Je dis, mais oui, mais si ça se trouve, je suis pas encore en travail, je ressens pas les contractions, j'ai pas de douleur. Et puis, Gueltaz essayait aussi, dit, bah oui, mais elle voudrait aussi essayer de faire sans péridurale. Et là, elle nous a regardé, puis elle nous a dit, non, mais en fait, un accouchement de jumeaux sans péridurale, c'est pas possible. Voilà. Donc, y a pas le choix. Et puis bon, bah, évidemment, moi, j'étais un peu vulnérable, pas trop à même de me défendre. Guetaz, bah, il a fait ce qu'il a pu, mais de toute façon, c'était un peu compliqué de la contrer. Donc, l'anesthésiste est venu et il m'a foutu la péridurale directe. Je crois que j'étais même pas dilatée à 2 cm, quoi. Donc, en fait, j'ai pas pu continuer mon travail, j'ai pas pu être mobile. Ils m'ont mise dans un lit et puis je pouvais plus bouger, quoi. Parce que, soi-disant, comme j'étais enceinte de jumeaux, eh ben, c'était la meilleure façon de faire et la manière la moins risquée de faire, quoi. Voilà. Donc, petit à petit, mon travail s'est fait. Et en fait, ça s'est arrêté. Dilaté à 7 cm, tout s'est stoppé. J'ai stagné. Donc, ils ont fini par appeler l'obstétricien à 5 heures du matin. Je crois il est arrivé. Il n'était pas de garde, mais il est arrivé quand même de chez lui. Et il m'a dit, bon, je vous laisse encore 2 heures comme ça, mais si dans 2 heures, ça n'a pas avancé, je pense qu'il faudra qu'on césarise parce que, voilà, il y a quand même une rupture de la poche des os et tout ça. Je dis, bon, bah, d'accord. Donc, il a essayé de me mettre dans une position qui favorise. Et puis, finalement, ça n'a pas du tout avancé, quoi.
Ah oui?
Non, pas du tout. Mais il ne m'a pas laissé jusqu'à 7 heures, il m'a laissé jusqu'à 10 heures quand même, 10 heures du matin. Donc, c'était chouette, hein. Je crois qu'il a vraiment tout tenté. Il avait pas remis d'ocytocine, je crois pas, parce qu'en fait, ah oui, il y a ça aussi, c'est que sur un utérus cicatriciel, on peut pas mettre d'ocytocine pour que le travail avance. Donc, il pouvait rien m'injecter. Donc, bon, il a fini par venir me voir en me disant, bon ben là, il faut y aller. À un moment donné, c'est plus possible de les maintenir comme ça in utero. Et puis, vous êtes toujours à 7 cm, ça n'avance pas. Donc, voilà. Il m'a dit, bah, je pense que si ça n'avance pas, c'est parce que, oui, le premier bébé a bien la tête en bas. Sauf que comme j'avais un utérus très distendu pour ma grossesse triple, bah, là, il était encore hyper distendu. Et du coup, les contractions n'appuyaient pas suffisamment pour que la tête appuie et que le bébé avance, quoi. Et comme c'était des bébés de petit poids, ils faisaient 2,3 kg, ben en fait ça a pu, enfin voilà, c'était pas un travail très efficace, quoi. Donc voilà, et il m'a emmenée en salle de césarienne, donc j'ai encore pleuré toutes les larmes de mon corps en lui disant mais je veux pas de césarienne. Il me dit bah oui, je sais, mais là j'ai plus le choix. Donc il m'a dit mais vous allez voir, ça va être chouette, votre mari va être là. Il dit on va mettre de la musique dans le bloc.
Ah, trop sympa.
Ouais, il était chouette. Et je lui ai dit, bah, par contre, on a choisi de pas connaître les sexes avant la naissance. Est-ce que c'est possible que, voilà, de pas nous les annoncer, quoi? Il me dit, ah, bah, oui, pas de problème. Et là, il m'a césarisé, mais vraiment dans une bonne ambiance. Il a sorti le premier bébé et il nous l'a montré. Et là, j'ai vu que c'était une fille. Et comme je m'attendais à avoir un garçon, je me suis dit, oh, ah, non, mais c'est fou et tout, c'est une fille. Mais c'est génial, donc j'étais trop contente. Donc c'était Marthe, et en fait on était hyper contents. Ils nous l'ont amené, ils l'ont laissé un petit peu contre nous, et puis bon après ils l'ont sorti quand même parce qu'il fait froid dans les blocs. Ils l'ont sorti, et puis bah tout de suite le deuxième bébé est arrivé. Alors là je me souviendrai toujours, il l'a levé mais tel le roi lion pour nous montrer ce que c'était, et Gueltaz a dit oh mais c'est encore une fille. Je dis bah oui non mais c'est dingue et tout. En fait c'est 2 filles, quoi. Donc 3 garçons, 3 filles au total. Alors moi j'étais vraiment abasourdie. Je me suis dit, mais c'est trop cool, quoi. C'est vraiment chouette. Donc là, Gueltaz est partie avec les filles. Et moi, pendant tout le temps où je suis restée au bloc, je me suis dit, ah, mais 2 filles. Si ça se trouve, c'est des vraies jumelles, en fait. Peut-être. Parce que même quand c'est 2 poches et 2 placenta, il y a un pourcentage qui fait que ça peut aussi être des jumeaux monozygotes. Je me suis dit, ah, ce serait dingue et tout. Bon, et en fait, voilà, ils m'ont recousu, je suis arrivée en salle de réveil, et j'ai attendu un petit peu, et Gueltaz est arrivée avec ses 2 bébés dans les bras, là, c'est vraiment beau, j'en garde un très beau souvenir. Et il me les a présentés, il m'a dit, bah là, il y a Marthe, et puis là, il y a Edith. Et du coup, il les a posés contre moi. Et puis, il y a une auxiliaire qui est venue et qui m'a aidée à les positionner au sein parce qu'elle savait, voilà, savait que j'avais vraiment envie d'allaiter. Mais en fait, Edith a grimpé tout de suite au sein. Elle s'est ventousée hyper facilement. Marthe, c'était un peu plus compliqué. Mais voilà, on était tous les quatre. C'était incroyable. Puis deux filles, quoi. Et donc là, je les ai beaucoup observées, beaucoup regardées. Et je me suis aperçue qu'elles étaient très différentes. Il y avait une brune, une qui était un peu plus cuivrée, une avec les yeux en amande, l'autre les yeux plus ronds. Elles n'avaient pas la même peau. Enfin, je me suis dit, bon, ben voilà, elles sont... C'est sûr, c'est des dizygotes. Donc, mon corps ne crée que des multiples ovulations, quoi. Incroyable comme truc.
T'as connu d'autres personnes qui ont vécu la même chose ? Plusieurs grossesses multiples ?
Non. Bah non. Non, j'étais sur un groupe de mamans au moment où j'étais enceinte de mes triplés, donc attendais des triplés ou des jumeaux, mais non, j'ai jamais connu deux fois des multiples, hein, c'était assez inédit. Ouais.
Et alors le retour à la maison, famille avec six enfants.
Très dur, je suis rentrée au bout de 9 jours, parce que bon, bah voilà, elles faisaient 2,3 kg, ils les ont laissés tout le temps avec nous à la maternité, de toute façon je voulais pas m'en séparer, donc c'était clair et net. Ils les ont jamais emmenés. Je les ai eus toujours dans le même berceau et tout. Enfin, c'était très important pour moi de surtout pas les séparer toutes les deux. Et maternité difficile encore. Moi, je me sens pas très bien à la maternité. Je me sens pas toujours comprise et entendue dans mes demandes. J'ai eu un gros baby blues et la seule chose qu'elles ont réussi à me dire, c'était que ben il fallait que j'aille voir la psy, que voilà, j'avais trop d'enfants, que enfin bon, c'était toujours des discours un peu spéciaux. Et puis en fait Marthe t'était pas très bien, donc ça a été difficile pour moi d'accepter que j'avais encore un bébé qui t'était pas bien, que c'était pas facile. Et puis je trouvais qu'elle m'aidait pas trop dans l'allaitement, quoi. Et comme c'était encore un bébé de petit poids, et ben on pouvait pas lui laisser trop de chance, donc ils ont introduit des biberons très vite. Je me disais, mais c'est bizarre, j'ai un bébé au sein et l'autre au biberon, ça me paraissait pas logique comme truc, quoi. Bon, et finalement, bah, de toute façon, entre la fatigue et voilà, la vulnérabilité des premiers jours, j'ai laissé faire. Donc, finalement, Marthe, elle a jamais vraiment tété, quoi. Quand je la mettais au sein, elle tétait pas. Et puis, j'ai quand même vu un ostéo, mais c'était trop tard. Elle était habituée au biberon. Biberon, ça coule tout seul, contrairement au sein où faut tirer. Donc voilà, j'ai continué avec Edith. Et puis bah, finalement, on s'est organisé de cette manière. Gueltas donnait les biberons et puis moi, j'allaitais Edith. Et puis après, on changeait, quoi. Donc j'ai eu un séjour hyper compliqué. J'ai eu une suite. En fait, j'ai fait un hématome encore juste après la césarienne et voilà, j'ai perdu beaucoup de sang. Ils ont failli me réouvrir, finalement non, j'ai eu de la chance quand même, mais voilà, j'ai eu des très très fortes douleurs, un hématome énorme tout le long du ventre, j'avais du mal à me mouvoir et tout, c'était hyper dur, donc pas très cool la suite, quoi. Et là je me suis dit, ok, mon corps il a vraiment morflé, c'est ma dernière grossesse, plus jamais je lui fais subir un truc comme ça, quoi. Et je suis rentrée au bout de 9 jours. Et je ne sais pas pour quelle raison, Gueltas est venu me chercher. Il m'a déposé à la maison. Il y avait les 4 grands qui étaient là parce que c'était mercredi. Et il est reparti travailler. Et je me suis retrouvée toute seule. Je ne sais pas pourquoi. Je sais pas ce qui s'est passé. Toute seule avec les 6 et ma césarienne qui avait 9 jours. Truc de fou. Bon, c'était horrible. J'ai passé une après-midi horrible et je me suis dit, c'est pas vrai, dans quoi je me suis foutue encore. Donc là, pensée un peu noire en me disant, je voulais pas de jumeaux. J'avais dit que je voulais pas de jumeaux et là, je me retrouve avec 2 bébés, les 4 grands, la galère du quotidien. Et c'est pas possible, quoi. C'est pas possible de me retrouver dans une situation comme ça. J'ai pas choisi ça, en fait. Et puis bon, finalement, petit à petit, ça s'est fait. Il a pas pris son congé paternité tout de suite. Je me suis un peu galérée toute seule comme ça pendant plusieurs semaines. Et puis ouais, j'ai vite trouvé mon rythme. En fait, je suis assez indépendante, donc voilà, j'ai géré comme je pouvais. J'ai encore pas réussi à avoir la maternité que je voulais, puisque on fait un peu au gré des besoins de l'enfant, mais voilà, j'en avais toujours une contre moi, mais finalement, l'autre était aussi en demande et je pouvais pas répondre aux besoins tout de suite. C'est ça le plus dur, je trouve, quand on a des jumeaux. C'est difficile d'avoir du relais. Et même entre nous, le soir, Gwetaz rentrait, il en avait une dans les bras, moi j'avais l'autre. On n'arrivait pas à se parler. Ouais, c'est quand même hard.
Et alors, quel regard tu portes sur toutes ces maternités par rapport à ce que tu disais justement au tout début de l'épisode, du fait que toi, petite, tu étais abandonnée par ta maman? Est-ce que c'est une belle revanche comme tu l'avais imaginé?
Oui, oui, très belle revanche. Je suis sûre qu'il n'y a pas de hasard. Je me dis que voilà, si c'est tombé sur moi, c'est que ça devait être comme ça. J'ai l'impression, tu vois, au quotidien, de me battre tout le temps pour leur donner le meilleur. Je ne suis pas sûre d'être une bonne mère tout le temps. Et puis, il y a des fois où je craque, où je suis fatiguée, où j'en ai marre et tout ça. Mais voilà, c'est un choix qu'on a fait là, que je ne reprenne pas le travail, que je sois 100% à la maison pour m'occuper d'eux. Et je me dis, bon, bah, voilà, tout ce que moi, je n'ai pas reçu, ben, j'essaie de faire en sorte qu'eux reçoivent le plus d'amour possible. Et même si voilà, je suis obligée de me diviser, tu vois, au quotidien, ils sont 6, ils demandent quand même beaucoup, chacun, même si les grands sont au collège. Voilà, il faut être là, il faut être présent. Ils me parlent aussi beaucoup, donc faut savoir écouter et tout ça. Mais je me dis, bon, je l'ai fait, quoi. Je l'ai fait, j'ai réussi. Aujourd'hui, les grands, ils vont avoir 12 et 13 ans. J'ai l'impression que voilà, je sors un peu de ce tourbillon hyper difficile dans lequel j'ai été absorbée. Je me sens plus embarquée dans un monde que je connais pas, parce que maintenant, voilà, chez nous, la norme, c'est les multiples, en fait. Donc, on fait avec. Le regard des autres nous ramène souvent au fait qu'on est une famille un peu qui sort de la norme. Mais bon, dans le quotidien, ça se ressent pas tellement, quoi. On ressent qu'on a beaucoup d'enfants, mais pas forcément que voilà, ce sont des multiples.
Et alors, qu'est-ce que ça a changé chez toi, la maternité ?
Bah, écoute, je me sens différente maintenant que je suis mère. J'ai l'impression que ça m'a apporté beaucoup. Ça m'a apaisée aussi. Je pense que j'étais quelqu'un d'un peu, j'étais un peu impulsive, impatiente. Bon, bah, là, forcément, on apprend la patience. On apprend à se rendre disponible. Je suis plus tellement centrée. J'ai eu une période où j'étais un peu centrée sur moi-même. Et là, en fait, c'est pas du tout. Je suis centrée sur mes enfants, et j'essaie justement, et je crois que c'est ça le plus dur, d'essayer maintenant de me recentrer et de me retrouver un peu en tant que femme, faire des choses sans me culpabiliser, de les laisser, ou c'est ça le plus dur, je trouve. J'ai une énorme angoisse de l'abandon, hein, je pense qu'elle est inhérente à mon histoire personnelle. Du coup, ça s'est un peu reporté sur mes enfants, ce truc-là. Et voilà, donc à chaque fois que je dois les laisser, je ressens toujours beaucoup de culpabilité. Je pense que c'est aussi pour ça que je suis à la maison aujourd'hui pour m'occuper d'eux. C'est que voilà, j'ai ce besoin d'être là auprès d'eux. Mais je pense que ça m'a quand même vraiment apaisée. Je me suis dit que j'étais quand même capable de faire des trucs de dingue, quoi.
Carrément.
Bah ouais. Hein.
On va passer aux petites questions de fin d'épisode. C'est quoi pour toi être une maman nantaise ?
Maman nantaise, écoute, c'est une maman dynamique, qui aime bien aller dans les parcs avec ses enfants parce qu'il y a plein de super parcs à Nantes. Je sais pas trop quoi te répondre, c'est hyper dur.
Justement, quel est ton lieu kids-friendly préféré, là où t'aimes bien aller avec tes enfants à Nantes?
J'aime bien le jardin des plantes. Je trouve qu'il est hyper apaisant.
Et quels sont tes projets, rien que pour toi et ce prévu en famille?
Alors, rien que pour moi, je suis en train d'écrire un livre. Voilà, c'est quelque chose qui me tient à cœur depuis longtemps. J'ai beaucoup écrit... j'ai commencé un blog, en fait, pendant la grossesse de Marthe et Edith. J'avais besoin de mettre sur papier tout ce que j'avais sur le cœur, et c'est ce qui m'a permis de mieux vivre ma grossesse. Donc là, voilà, j'essaie d'écrire. Ça me fait du bien. On verra bien ce que ça donne après. Projet en famille, et gros projet, parce qu'on est en train de faire construire une maison, voilà, à la campagne. Donc, Gwetaz est architecte, donc gros kiff pour lui de concevoir sa maison. Donc, une maison un peu éco-responsable, voilà. Ça va être chouette.
Merci beaucoup, Athéna.
Merci, Shane.
Un grand merci d'avoir écouté Le Tourbillon. Et si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à mettre un avis sur votre application podcast et à en parler autour de vous. Cela m'aidera beaucoup. Et pour que l'on puisse échanger ensemble sur tous ces sujets de maternité, abonnez-vous au compte Instagram Le Tourbillon Podcast. Et moi, je vous donne rendez-vous mardi prochain pour un nouvel épisode qui parle de la maternité, la vraie.
Small details are big surfaces. Tight corners are odd shapes. Flat, rounded, textured, or tall. Whatever your next project, there's a spray paint pattern that's just right. Because Rust-Oleum's new Custom Spray 5-in-1 gives you control with 5 different spray patterns. So you can tackle nooks, crannies, edges, and curves without worrying about drips, runs, uneven coverage, or anything else. Custom Spray 5-in-1. Only from Rust-Oleum.